Vous écoutez RTL.
Il est 12h30.
Le journal inattendu de Claire Kem avec Bernard Poiret sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal inattendu de la comédienne Claire Kem. Bonjour Claire Kem.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Que dire de vous ? Plein de choses. Vous avez 41 ans et à votre compteur, il y a déjà une vingtaine de films, plus de 40 téléfilms. Actuellement, vous jouez avec Guillaume de Tonquédec les deux rôles principaux de la pièce La Garçonnière. C'est au Théâtre de Paris jusqu'au 31 mai. Vous chantez également, vous avez fait un disque. Et vous êtes depuis 12 ans une pensionnaire très assidue de la troupe des Enfoirés. Avec Bichente Lizarazu, dont vous partagez la vie, vous avez une fille qui se nomme Ouina en
Ouaïna.
Basque. Ouaïna. Ça veut dire vague en basque.
Vague.
Et c'est là-bas, au Pays Basque, qu'on peut vous trouver le plus souvent. Car c'est là-bas que, de toute évidence, vous aimez vivre. Voilà quelques généralités sur vous. Claire Kem, je vous laisse compléter ce portrait à votre guise. Claire Kem, qui êtes-vous vraiment ?
Alors, je suis née en 1975, entre forêt et pavé sans lisien. Et du plus profond qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours adoré la vie. Même si j'ai toujours eu une passion aussi pour les bêtises, du genre mettre les doigts dans la prise. Bref, ça aurait pu s'arrêter là, mais l'histoire continue sans que je sois vraiment capable de dire à quel moment le chant, la comédie, le dessin, le collage se sont imposés à moi comme seul support d'une sensibilité légèrement exacerbée. J'ai eu la chance d'être aimée, encouragée et soutenue dans cette voie quand à 16 ans, le hasard a frappé à ma porte pour me proposer une audition miraculeuse pour une comédie musicale, déjà au Théâtre de Paris. Je crois qu'on y reviendra.
Paul et Virginie.
J'ai passé mes premières années parisiennes entre théâtre, ciné, télé, et pour tout dire liberté, car pas encore vraiment identifiée. Et puis est venue la notoriété fulgurante, écrasante, passagère, due à une saga d'été relativement suivie. Et puis d'un duo aussi. Parallèlement, j'ai toujours fait beaucoup de musique, du piano essentiellement, en m'accompagnant de mots maladroits, si possible fiévreux, mais toujours sincères. J'ai souvent participé à des duos, comme avec Marc Lavoine, Aldebert, Thieffen, Alain Chamfort ou même Goldman. J'aime bien les duos. Je trouve qu'il sort toujours une troisième personne de ces couples musicaux. J'ai sorti mon album en 2011, Où il pleuvra, dont le titre m'a été soufflé par Francis Cabrel, qui m'a fait l'honneur de m'écrire une chanson. Je ne vis plus à Paris depuis 10 ans, vous l'avez dit, ma vie est dans le sud-ouest, ce qui a naturellement m'a éloigné du bouillon professionnel parisien, mais qui a consolidé ma famille, qui m'a offert de belles rencontres et une vie au plus près de ce qui m'est vital, la nature. À ce sujet, j'ai rencontré Nicolas Hulot il y a une quinzaine d'années.
Oui.
Nous sommes devenus amis et je le suis infiniment reconnaissante d'avoir éveillé des millions de gens comme moi à la conscience écolo et ce, en les émerveillant. Je soutiens des associations dès que je le peux. Tout me touche. J'ai bien conscience que ma parole n'a pas plus d'importance que celle des autres, mais j'essaie de profiter des fenêtres médiatiques qui me sont proposées pour relayer les messages de tous ceux qui œuvrent sur le terrain. Et pour finir cette fois, et même si je le fais mal, je voudrais rendre hommage à la grande Jeanne Chéral, qui ici, l'autre jour, a déposé des mots d'une douceur extrême et d'un bel à-propos. Elle criait son amour pour les Alexandrins. J'aimerais en retour bien lui dire à quel point je peux trouver en elle un écho qui rassure. Sa poésie tranquille guérit toutes mes blessures. Et son charme infini, s'opposant au brutal, me donne un peu l'espoir que tout ne va pas si mal.
Pas mal, Jeanne Chéral, qui était exactement là où vous étiez il y a quelques semaines, absolument, qui est une femme merveilleuse,
oui.
Qui est arrivée en retard parce que son train
est tombé en panne, voilà.
Comme vous le savez, à Senlis, d'ailleurs,
oui,
là-bas, juste à côté
de chez vous,
absolument. Bon, écoutez, on a presque une heure pour approfondir le sujet Claire Kem de ce journal inattendu, de ce 29 avril, dont l'actualité politique est, ma foi, extrêmement riche. C'est pourquoi, à 12h34, je cède bien volontiers le micro à Philippe Robuchon pour les toutes dernières informations. Philippe, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour Claire Kem.
Bonjour.
Bonjour à tous. En cas de victoire de Marine Le Pen, son premier ministre s'appellera Nicolas Dupont-Aignan. Annonce faite ce matin à Paris, au lendemain du ralliement du président de Debout la France. On va rejoindre dans un instant Julien Fautra, qui a assisté à cette annonce. Emmanuel Macron, lui, est toujours dans la Vienne. Ce matin, il a flâné dans les rues de Poitiers avant de rejoindre une exploitation agricole. Objectif, séduire le monde paysan. En Égypte, le pape François a célébré tout à l'heure une messe devant plusieurs milliers de fidèles, mesures de sécurité exceptionnelles. Marie Guerrier, l'envoyée spéciale de RTL, nous appellera. Et puis une longue page sport, Bernard, ce samedi, top 14 de rugby, Ligue 1 de football, sans oublier les filles du PSG et de Lyon qui sont tout près d'une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Le temps, il sera très beau et plus doux. Prévision détaillée de Valérie Quintin dans 10 minutes.
Le journal inattendu sur RTL.
Marine Le Pen avait promis de donner le nom de son futur Premier ministre entre les deux tours. Eh bien, c'est fait.
Oui, en cas de victoire de l'ex-présidente du Front National, c'est donc Nicolas Dupont-Aignan qui sera nommé à Matignon. La nouvelle a été officialisée ce matin lors d'une déclaration commune. Nicolas Dupont-Aignan qui, hier soir, à la télévision, avait annoncé son ralliement à Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'il a obtenu 4,7% des voix au premier tour. Bonjour Julien Fautras.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à cette déclaration commune. Déjà, on retient l'image, hein, Marine Le Pen côte à côte, main dans la main avec le dirigeant d'un autre parti politique que le sien. C'est une première, ça ne s'était jamais vu.
Oui, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont voulu le moment solennel. Toute une mise en scène avait été préparée, réglée au millimètre. Les cadres des deux partis étaient présents. Comme pour un mariage, les uns à droite de l'allée centrale, les autres à gauche. En cas de victoire de Marine Le Pen dimanche prochain, Nicolas Dupont-Aignan donc deviendrait la deuxième tête de l'exécutif.
Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. Appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui, nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France.
Un document a été distribué sur les points d'accord entre le leader de Debout la France et l'ancienne présidente du FN. La sortie de l'euro sera, je cite, « adaptée aux priorités ». C'est un rétropédalage clair pour Marine Le Pen, un simple détail pour Nicolas Dupont-Aignan.
Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que quand la France est partagée, et quand on veut la défendre, ce qui paraissait peut-être impossible est devenu évident et possible. C'est ainsi. Tout le reste n'est que du détail.
Mais cette alliance est aussi électorale, évidemment, aux législatives en juin prochain. Le FN ne devrait présenter personne dans certaines circonscriptions face au candidat Debout la France.
Merci Julien Fautras. La décision de Nicolas Dupont-Aignan provoque depuis hier soir une vague de critiques plus dures les unes que les autres. De François Bayrou à Valérie Pécresse, en passant par Alain Juppé qui parle de trahison, de Dominique Bussereau qui traite carrément Nicolas Dupont-Aignan de collabo. Démission en série également au sein de Debout la France. Et puis hier, dans l'Essonne, une manifestation a eu lieu ce matin en présence d'une centaine d'habitants. Hier, ville dont Nicolas Dupont-Aignan est le maire depuis 21 ans. J'ajoute que Nicolas Dupont-Aignan sera demain l'un des deux invités du grand jury sur RTL. L'autre invité sera François Bayrou.
Et j'ajoute moi que Marine Le Pen fait la liaison entre Dupont et Aignan, alors ce que Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas. Il va falloir peut-être qu'elle se mette au courant. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est toujours dans le département de la Vienne.
Oui, après Châtellerault hier soir, il s'est promené ce matin sur un marché de Poitiers avant de rejoindre une exploitation agricole à Usseau. Vincent Derosier, vous suivez le candidat d'En Marche. Son objectif est clair. Hein. Il veut séduire les agriculteurs qui, selon lui, ont besoin de l'Europe.
Oui, sans l'Europe, l'agriculture française est morte. C'est le message simple qu'Emmanuel Macron veut faire passer aujourd'hui. Il a donc organisé une rencontre avec un éleveur de chevaux, cultivateur de céréales, totalement pro-européen. Et donc, ça offre un échange où tout le monde est d'accord sur tout.
Nous, les agriculteurs, on ne peut pas faire sans l'Europe. On est mort sans l'Europe. Même s'il y a beaucoup de colère dans les campagnes, il faut se projeter, il faut parler d'avenir. Et le discours que vous portez nous laisse entrevoir un petit peu d'espoir.
Bon, je sens bien cette colère hein, qui s'exprime par un vote de rejet qui est un peu suicidaire. Parce qu'il faut bien dire ce qui est. La sortie de l'Europe, elle ne répond en rien. Hein.
Derrière, il y a bien sûr le message politique. L'agriculture française, avec ou sans l'Europe, à une semaine du second tour, Emmanuel Macron insiste pour confronter son projet à celui de Marine Le Pen.
Il n'y a que Madame Le Pen pour croire qu'on va sortir de l'Europe et que les autres pays européens vont nous dire bienvenue. On se moque du monde, c'est un mensonge. C'est un parti qui exploite la colère sans apporter de solution. Ce qui est le comble même, à la fois de la démagogie et du cynisme.
Emmanuel Macron qui refuse de donner le nom de son Premier ministre pendant que Marine Le Pen choisit le sien, lui ne veut faire que du terrain pour ne plus donner le sentiment qu'il prépare son gouvernement.
Vincent Derosier dans la Vienne pour RTL. François Hollande assiste, lui, à Bruxelles, à un Conseil européen, son dernier sommet à 27, le premier post-Brexit. Le président français, à son arrivée ce matin, a estimé que le choix du 7 mai en France serait un choix européen et que les Français avaient tout à gagner à rester dans l'Union. Fin de citation.
Il est 12h39 sur RTL. La suite du journal dans un court instant. On s'arrête quelques minutes et ensuite nous partons au Caire où le pape François a célébré ce matin une messe devant plusieurs milliers de fidèles.
Le journal inattendu de Claire Kem avec Bernard Poiret sur RTL.
Et la suite de ce journal d'information avec Philippe Robuchon. Philippe, au second et dernier jour de sa visite en Égypte, le pape François a célébré ce matin une messe devant des milliers de fidèles dans un stade militaire du Caire.
Oui, le Saint-Père est arrivé à l'arrière d'une petite voiture de golf, encadrée par un dispositif de sécurité, vous le dites, quasiment militaire. Une messe qui prend tout son sens, évidemment, dans un pays où les chrétiens ont récemment encore été visés par des attentats. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Caire pour RTL aux côtés de Philippe Maillet. Ce qui vous a marqué ce matin, encore une fois, ce sont ces mesures de sécurité absolument inouïes.
À l'extérieur du stade, oui, il y a des blindés, des mitraillettes, des hommes en armes. Et à l'intérieur du stade, cette messe, c'est une fête pour la petite communauté copte catholique, si heureuse d'accueillir son pape, lâché de colombes et de ballons jaune et blanc, les couleurs du Vatican. Une clameur monte quand il apparaît enfin. François salue la foule, de milliers de casquettes blanches à son effigie. Il valait mieux se protéger du soleil. Le pape bénit un couple de jeunes mariés, étreint des enfants en costume de pharaon et de Cléopâtre. Les bruits des hélicoptères de l'armée qui tournent au-dessus du stade couvrent parfois la voix de François. Pour que l'assemblée comprenne bien son message, l'homélie prononcée en italien est entrecoupée de traductions en arabe. Dans le contexte des attentats contre les chrétiens, le pape François est venu dire l'espérance. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La vie, la vie, la vie. Le mot revient sans cesse sur ses lèvres. La foule a prié pour les victimes du terrorisme à travers le monde et particulièrement les martyrs d'Égypte pour qu'ils trouvent le repos et leur famille la consolation.
Merci Marie Guerrier en direct du Caire pour RTL. Retour en France avec une info économique. Les magasins Tati déclarés en cessation de paiement. Le sort des 1700 salariés donc à nouveau dans les mains des juges. C'est le groupe Eram qui avait repris l'enseigne Tati en 2004. L'île de la Réunion, une nouvelle fois sous le choc ce matin. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui faisait du bodyboard a été tué par un requin. Ça s'est passé au large de Saint-Leu à l'ouest de l'île. C'est la 9e attaque mortelle en 6 ans. On ignore pour l'instant si elle a eu lieu, en zone protégée ou pas. En sport, je vous rappelle qu'en football, l'Olympique Lyonnais est allé gagner 2-1 à Angers hier soir. Cet après-midi à 17h, Monaco toujours leader, mais avec un match en retard, reçoit Toulouse. 5 autres rencontres ont lieu à 20h, dont le match Bastia-Rennes délocalisé à Fos-sur-Mer. Foot féminin également, Bernard, cet après-midi et ce soir, avec les filles du Paris Saint-Germain qui reçoivent leurs homologues de Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiennes avaient gagné à l'aller 3-1. À 20h45, les Lyonnaises, elles aussi vainqueurs à l'aller 3-1, accueilleront les Anglaises de Manchester City. Un petit mot de rugby, 25e journée de top 14. À 14h45, Castres reçoit Toulouse. Autre match de 18h30 à 20h45. Je vous rappelle qu'hier soir, Oyonnax a assuré sa remontée dans le top 14 la saison prochaine grâce à la victoire d'Albi à Agen. On passe à la météo avec Valérie Quintin. C'est beau et c'est doux.
C'est vrai, on va avoir une très belle journée. Ce sera d'ailleurs la seule du week-end, autant en profiter. Beaucoup de soleil, il reste 2-3 brouillards sur le nord de l'Île-de-France, c'est pas grand-chose. Des passages nuageux peut-être un petit peu plus denses au nord de la Loire, mais vraiment, c'est pour chipoter. Et sinon, ce soir, ce sera un peu plus chargé vers le Pays Basque et au pied des Pyrénées d'une façon générale, mais sans dégradation, il n'y aura pas de pluie dans un premier temps. La pluie, c'est demain. Les températures, fourchette de 13 à 22 degrés, 16 à Lille et Strasbourg, 18 à Rennes, à Paris, à Grenoble, 19 pour Limoges et Marseille, 20 à Toulouse, 22 à Biarritz et à Bordeaux.
Merci beaucoup Valérie. Vous avez vu comment elle fait, Claire Kem, pour la
super.
Météo.
Je m'en inspire.
Bon, à 13h, ça va être à vous. Écoutez, j'ai une question à vous poser quand
Dites-moi.
Même. Avant qu'on parle théâtre, qu'on parle environnement, qu'on parle de toutes les choses qui vous intéressent et qui vous passionnent. Bon, vous vivez avec un ex-footballeur professionnel qui est une vedette. C'est notre consultant ici à RTL. Vous n'aimez pas le foot?
Non, pas particulièrement.
Ça vous indiffère totalement.
Oui, totalement.
Comment ça se passe les soirées foot chez vous, là-bas, au Pays Basque? Parce qu'il y a des copains qui viennent voir les matchs quand il est là.
Non, c'est ça qui est marrant. Enfin, ça peut arriver, mais souvent, c'est les miens qui sont à la maison et qui se disent « Ah super, on va regarder le match avec Bichent, il va nous commenter le match en direct et tout. »
Et lui, il veut pas.
Mais il est extrêmement concentré et professionnel, mon amoureux. C'est-à-dire que quand il est devant le foot, il bosse et il n'a pas envie de tchatcher et de commenter. Il n'est pas du tout mode supporter. Il est hyper précis, il ne faut pas faire de bruit. Moi, en général, de toute façon, je suis rarement devant la télé. Je suis souvent dans mon bureau avec mon piano et mes chansons et mes livres et mes ma cheminée. Donc, Là-dessus, c'est vrai qu'on a, moi, je suis pas du tout le football avec lui, sauf quand il me dit bon là, tu vas te poser dans le canapé parce que là, ce match-là, c'est vraiment un grand match.
Ça va être un grand match.
Et je lui fais tout à fait confiance et il sait m'amener dans le canapé quand il faut.
Claire-Kem, dans le journal de Philippe Robuchon, il y avait aussi ce surfeur qui a été attaqué et tué par un requin à La Réunion. Ouais. Or, il se trouve que parmi tout ce que vous faites, vous avez été ou vous êtes peut-être toujours marraine d'une association.
C'est vrai, il y a un petit moment
qui se bat pour la survie du grand requin
blanc. La défense
blanc.
Du grand requin.
Voilà, oui. Qui est massacré régulièrement, notamment voilà. Au large de l'Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'il faut sauver les requins ?
Alors déjà, il faut sauver toutes les espèces, il n'y a pas d'hierarchie dans l'horreur.
Mais notamment les requins, en l'occurrence.
Il est très important sur la chaîne alimentaire, je veux dire, c'est un prédateur. Il est évidemment très important, et en ce moment, c'est horrible ce qui s'est passé. Mais malheureusement, je crois qu'une fois de plus, l'humain est responsable. Il y a un problème de surpêche, il y a un problème d'exploitation des littoraux qui sont désastreux. Et je pense que cette situation marche sur la tête comme beaucoup, beaucoup d'autres.
Donc le requin s'attaque aux humains parce qu'il ne trouve plus à manger dans son habitat naturel,
oui,
c'est ça ?
Oui, et puis parce que... Alors, je ne connais pas particulièrement le cas de La Réunion, donc je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais je crois me souvenir qu'il y a quand même des problèmes de déchetterie qui sont où les requins viennent se nourrir puisqu'ils n'ont plus assez à manger et du coup qui les amènent de plus en plus près des côtes. Et ça les met forcément au contact des surfeurs et voilà, des bodyboarders.
Et le résultat, c'est ce qui s'est passé ce matin.
C'est horrible, c'est un drame, et pour les requins et pour les humains.
Mais écoutez, je ne savais pas que vous aviez aussi ce centre d'intérêt-là, mais vous en avez bien d'autres. On va en parler, si vous le voulez bien, à partir de dans deux minutes, là tout de suite, puisqu'il est 12h46. On s'interrompt un instant et on va commencer par parler de la pièce pour laquelle je l'ai fait venir, hein, quand même, Claire-Kem. C'est La Garçonnière. Alors, je me suis planté, imaginez-vous. Je pensais que c'était une pièce de théâtre américaine. Pas du tout. Vous m'avez dit avant les mission, mais non, pas du tout. C'est un scénario qui a été créé pour Billy Wilder, pour le cinéma.
Par Wilder, voilà, et un monsieur s'appelle Wilder. Diamond.
Voilà, et maintenant c'est devenu une pièce de théâtre, mais au départ c'était pas une pièce de théâtre à Broadway.
Non,
à
New York. C'est une création.
En tout cas, vous le jouez au Théâtre de Paris jusqu'à la fin du mois de mai. Claire-Kem, on se retrouve dans un instant.
Le journal inattendu sur RTL, avec Claire-Kem et Bernard Poirette.
Claire-Kem, donc La Garçonnière, vous jouez l'un des deux rôles principaux. Vous, c'est la femme, Guillaume de Tonquédec, c'est le monsieur. On écoute un petit extrait, si vous le voulez bien, un extrait de la pièce.
Regardez, c'est la fenêtre de mon appartement. C'est un joli petit appartement, confortable, bien chauffé. Vous vous demandez pourquoi je monte pas ? Parce qu'il est occupé. Mes supérieurs hiérarchiques l'utilisent comme garçonnière. Et ce soir, c'est le directeur. Je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini, mais parfois c'est long. Surtout quand il fait froid. J'aurais jamais dû accepter ça, jamais. Ils ont qu'à amener leur poule ailleurs. Puis après tout, qu'ils se débrouillent, hein, c'est fini, terminé. La prochaine fois, je leur dirai, c'est pas trop tôt quand même.
Eh oui, en fait, bien entendu, il ne dit jamais non, forcément. En plus, c'est lié à son avancement dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Moi, il m'a semblé quand même que c'est une pièce terriblement politiquement incorrecte.
Oui,
non.
Ça parle de corruption, ça parle de misogynie.
Ah, complètement.
Ça parle. Oui, ça parle en
et
fait
c'est
d'une
pour ça que vous avez dit oui.
Honnêtement, j'étais charmée immédiatement par. Les personnages sont absolument incroyables. C'est deux petits diamants bruts au milieu de ce monde qui est vraiment totalement horrible. Voilà, lui, voilà, il prête son appartement, il a un peu d'avancement, et puis tout à coup, il se fait un peu réprimander par son patron qui finalement finit par lui demander la clé. Donc en fait. Moi, ce qui m'a plu, c'est la beauté de ces deux personnages qui luttent pour être heureux, avec plein d'humour, avec une candeur, quelque chose de très beau, et qui ne sont vraiment pas faits pour être heureux et qui vont finir par peut-être l'être.
Alors, je précise que vous êtes la liftière de l'ascenseur de l'entreprise.
Fille de l'ascenseur.
Que lui, il
petit
est tombé,
employé.
Il est complètement red love de vous, bien évidemment. Il essaye de récupérer son appartement pour vous mettre dedans avec lui. Mais il a beaucoup de mal. Mais enfin, c'est peut-être un peu abruptement dit.
On se retrouve, disons, par un concours de circonstances assez incroyable dans La Garçonnière. Mais je ne veux pas trop dévoiler l'histoire.
Alors, il faut que vous me disiez et que vous disiez aux auditeurs ce que vous m'avez dit avant de rentrer en studio. Parce que vous me dites, écoutez, on est une bande. Vous êtes 12 hein, quand même, si j'ai bien compté. Vous êtes 12. Et alors, vous faites quelque chose avant chaque représentation, notamment celle de jeudi soir où j'étais. Racontez ce que vous faites.
C'est un moment très important. Bon, déjà, je les aime infiniment. Si je pouvais, je peux pas les citer.
Les 12,
allez,
c'est vrai. Vas-y, vite fait.
Guillaume de Tonquédec. Bon, évidemment, j'aurais dû prendre la liste. Benoît Tachoir, Jacques Fontanelle, Jean-Yves Rouen, Pierre-Olivier Mornas, Bénédicte de Sombes, Anne-Sophie Nalino, Muriel Combeau, Sophie Letellier et moi-même. Je crois que j'ai oublié personne, je vous en supplie, j'espère. Ce sont des gens que j'aime déjà. C'est une équipe hallucinante. C'est vraiment... J'ai pas le souvenir d'avoir eu autant de liens avec des gens. C'est une vraie famille. Et évidemment, tous les soirs, avant de rentrer en scène... On se tient les bras, on se rapproche et en rond, évidemment, on se serre de toutes nos forces, on s'envoie une décharge d'amour infinie et on fait et ça finit en hurlement de haka et ça nous fout une patate énorme et on est ensemble et on est à l'unisson et c'est parti et on va tout défoncer pendant une heure et demie. Et j'adore ce moment, j'adore cette pièce, j'adore ces gens. À chaque fois que les spectateurs sortent de la salle, ils disent mais c'est fou à quel point vous êtes tous ensemble, il y a une unisson, il y a une énergie, il y a un amour, ça se voit que vous
aimez.
Mais
c'est pas votre première pièce, mais c'est la première fois que vous faites ça.
C'est la première fois qu'on est 12.
Alors c'est vrai que vous êtes beaucoup, mais quand même.
C'est incroyable, c'est une aventure de fou. José Paul est un génie d'avoir réussi à... Je ne sais pas comment il a fait, il a dû bosser avec Montessori ou je ne sais pas qui. Il nous a choisi en sentant tous à merveille. Il nous fait croire que tout est toujours positif. Moi, j'ai énormément progressé grâce à lui. Je lui remercie infiniment. Et puis grâce à mes partenaires qui m'apportent tous les jours énormément. Je les aime, je les embrasse. J'ai hâte de les retrouver. Voilà, je les aime.
Et bien, vous y serez ce soir, normalement.
Là, même tout à l'heure, là, dans 2 heures.
Oui, parce que vous avez une séance d'après-midi, le samedi.
Et,
oui.
Oula, et le temps de mettre les bigoudis et tout ça.
17h et 20h30.
Eh oui.
Deux fois.
17h et 20h30.
C'est dur de jouer l'une derrière l'autre ?
C'est physiquement éprouvant,
physiquement,
rincée, non. Hein. C'est une pièce, quel que soit l'état dans lequel j'arrive, elle me redonne de l'énergie, elle me redonne de la gouache, elle me redonne de l'espoir. C'est une pièce qui a une énergie folle et très communicative.
Donc Claire Kem, vous vivez bien entendu de votre art, le théâtre, la musique à une époque, un peu moins maintenant, mais ça peut revenir,
ça
le cinéma, pourquoi pas. Et puis, vous avez bien d'autres cordes à votre arc, en quelque sorte, vous avez bien d'autres passions. Vous êtes engagé donc dans plusieurs associations, vous avez été marraine de plein de choses, notamment de la Fondation Nicolas Hulot. Et toujours avant l'émission, quand vous êtes venu le tour, on a eu le temps de discuter et de fumer une cigarette. Et donc, vous m'avez dit, je veux absolument, absolument parler d'une initiative de dizaines d'associations qui sont mises ensemble.
Plus 140. Dont certaines représentent d'autres associations.
Qu'est-ce que c'est cette chose-là ?
Je suis un peu étonnée que l'appel n'ait pas été plus relayé par la presse, les médias. Ça s'appelle l'appel des solidarités. C'est historique. 140 associations se réunissent pour faire un constat.
Dans le cadre de la présidentielle ? Ou pas ?
Ça ne veut pas interpeller du tout les candidats. Ça s'adresse aux citoyens. Ça ne leur demande rien.
Oui.
Juste de répondre présent à quelque chose.
On
est tous d'accord quand même pour dire que ce monde marche à l'envers, sur la tête. Il y a des inégalités insupportables partout. Et tout ça, c'est dû à un déficit de solidarité.
Ouais.
Donc la seule solution, c'est plus de solidarité. Donc ces 140 associations, elles se sont réunies autour de 500 propositions sur 5 caps des solidarités.
Mmh.
Une solidarité économique et fiscale, lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Sur évidemment la solidarité avec la nature et les générations futures. Bosser sur le climat, le sol, les océans, tout ça. Évidemment une solidarité avec les exclus. Tous les exclus, toutes les inégalités, la lutte contre, donc évidemment, contre, il faut, excusez-moi, parce que c'est pas mon métier du tout, donc j'essaie d'être très claire, mais c'est pas facile. Il faut respecter les citoyens, aujourd'hui on n'est pas entendu. C'est-à-dire que c'est pas que quand on vote, il faudrait que le reste de l'année aussi, on puisse être quand même...
Mais tout ce cahier de doléances, vous l'avez remis aux candidats quand même, non ?
Ah, mais eux, ils le font toute l'année,
il faut quand
et
même
ça
que
ne change
ça passe,
rien.
Ça.
Ce sont des associations qui œuvrent tous les jours, qui ont des solutions, qui passent des heures et des heures à discuter avec des politiques dans des bureaux, et il ne ressort rien de ça. On voit bien que ça ne marche pas. C'est à nous, la société civile, de répondre présent. Il faut que nous, on se mobilise pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec ce monde qui est profondément injuste.
Alors justement, ce qui marche, de toute évidence, ce sont les initiatives citoyennes
que
vous venez de décrire. Et pour cela, vous avez souhaité qu'on fasse un reportage. Alors, on a fait un reportage. Alors, je vais me permettre de l'introduire quand même, parce que, en fait, il faut savoir que Emmaüs, que tout le monde connaît, on est tous allés un jour ou l'autre chez Emmaüs, il y a une version moderne désormais d'Emmaüs, notamment en Bretagne, et cette version moderne se décline dans 3 entreprises de réinsertion spécialisées dans le recyclage des textiles. Ces entreprises s'appellent Retrilogue, Retritex et Réemploi et compagnie. Alors c'est une économie écologique et solidaire qui propose donc de nouvelles réponses à la précarité, et en 2 ans, Emmaüs Action Ouest, qui gère donc l'ensemble du dispositif, est passé tout de même de 9 personnes à 160 165 salariés. C'est quand même phénoménal, dont une centaine de personnes en insertion. Patrice Gabart, donc, c'est le correspondant de RTL à Nantes. Et ce sont de toute évidence des hommes et des femmes qui reprennent vie dans cette sphère de développement durable. Et Patrice est allé le constater sur place dans la bonne ville de Lorient. Écoutez, Claire Kem.
Avec Crotrilogue, Emmaüs ne fait pas dans la demi-mesure. L'entreprise de réinsertion travaille en co-traitance avec Veolia à Lorient, dans l'un des plus gros centres de regroupement des déchets d'équipements électriques et électroniques en France. Une énorme plateforme logistique par laquelle transitent 23 000 tonnes de déchets par an, en moyenne 63 tonnes par jour, de frigos, chauffe-eau ou encore portables récupérés dans les déchetteries du Morbihan et du Finistère, puis dirigés vers des centres de traitement. Éric Bécard, le directeur de Retrilogue.
Nous sommes aujourd'hui ici sur ce site à Lorient 27. Deux fois sur trois, ce sont des personnes qui seront en parcours d'insertion. Et ces personnes en insertion sont là pour reprendre confiance en elles, rebondir et repartir vers l'emploi classique, standard.
Des emplois de cariste ou chauffeur poids lourd, à l'image d'Esteban, 22 ans, au volant de son 19 tonnes.
J'avais pas d'expérience, j'étais trop jeune, donc du coup on me ferme les portes. Et pourtant j'ai mon poids lourd, mon super lourd. J'ai commencé en insertion et puis maintenant je suis permanent au sein de l'entreprise. J'ai eu de la chance, on va dire.
L'acte 2, c'est RetriText et en particulier sa boutique textile aux couleurs d'Emmaüs qui emploie 3 salariés en insertion et propose des milliers de vêtements d'occasion, un magasin avec ses mannequins et ses cabines d'essayage qui n'a absolument rien à envier à une boutique de prêt-à-porter. Jean-François Maruzizac, directeur d'Emmaüs Action Ouest.
La logique d'un projet d'insertion, ça va être de proposer des activités qui se rapprochent le plus possible de l'activité traditionnelle. Ici, dans une boutique comme celle-là, on va mettre en situation les salariés pour qu'ils puissent être employables derrière, chez un employeur classique.
Enfin, il y a la recyclerie de Caudan, Réemploi et compagnie, qui redonne une seconde vie aux objets récupérés dans les 12 déchetteries de l'agglomération. 360 tonnes l'an passé. La moitié est vendue sur place à très bas prix. Le reste, le bois, la ferraille, le carton, est valorisé. Et seuls 4% de ces déchets sont enfouis. L'atelier où l'on réceptionne et restaure ces milliers d'objets emploie 14 personnes en insertion, des femmes et des hommes en reconstruction. Willy, 40 ans.
Je venais perdre mon emploi suite à un accident du travail. Je me refusais à cette fatalité. J'ai eu la chance de rencontrer cette structure. Nous aussi, on arrive, j'ai envie de dire, dans un certain état et on repart, bien heureusement, dans un autre état. Et nous aussi, finalement, nous sommes repartis pour une seconde vie.
Autre témoignage fort, celui de Philippe, 54 ans, arrivé il y a 6 mois.
J'étais malheureusement bénéficiaire du RSA et j'ai retrouvé le plaisir de travailler avec des gens, de faire des choses utiles et je m'y retrouve vraiment totalement.
Emmaüs Action Ouest, c'est aussi un fonds de dotation Emmaüs Emploi en Bretagne qui attend son parrain ou sa marraine.
Claire, vous êtes la bienvenue et venez nous voir.
L'invitation est lancée.
Alors, il faut y répondre.
Avec plaisir.
Vous irez ?
Bien sûr.
Ah bah super, parce que forcément, ils vous écoutent, bien évidemment. Donc, elle ira, et pourquoi pas, elle vous filera un coup de main, parce que c'est Claire Kem, et parce qu'elle est connue.
Quand vous pouvez, voilà. Il n'y a pas de hiérarchie, et on ne peut pas faire de tri sélectif dans les solidarités. C'est surtout ça qui est très important. J'ai oublié de parler aussi de la solidarité avec les peuples, avec les autres, parce que on ne peut pas s'en sortir de toute façon tout seul. On voit bien que c'est tous ensemble, on s'en sort, ou alors tous ensemble, on va dans le mur.
Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte encore mieux juste après le petit flash de 13h, là, puisque votre invité, oui. Cyril Dion, nous attend. Il est à Nantes, au bureau RTL de Nantes.
Merci beaucoup.
Alors Cyril Dion, c'est le réalisateur de ce formidable film qui a fait, me semble-t-il, un gros carton en salle.
Mélanie Laurent,
ça s'appelle
oui.
Demain. Donc c'était avec Mélanie Laurent. Oui. Et je me souviens que je l'ai reçu, Cyril Dion, à la sortie de ce film.
Bravo.
On va en reparler avec lui dans quelques minutes, parce que ça a été un film, je crois, important pour la prise de conscience écologique des Français, en se disant, bon, comme vous disiez, les politiques peuvent pas tout, c'est peut-être à nous de nous retrousser les manches et de faire des trucs.
Ça marche déjà sur le terrain, il faut s'inspirer de tout ça, les politiques doivent s'inspirer de toutes ces initiatives.
On va en parler avec Cyril Dion dans quelques minutes. Il est 12h59, vous écoutez le journal inattendu de Claire Kem. Il est 13h. Le flash d'info est présenté par Philippe Robuchon.
Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre, si Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, annonce faite ce matin à Paris lors d'une déclaration commune. Le candidat de Debout la France est un patriote sincère et exigeant, a dit Marine Le Pen. Au plan politique, le duo conserve le thème de la priorité nationale, mais la transformation de l'euro n'est plus un préalable. Je vous propose d'écouter la réaction d'Emmanuel Macron à ces annonces, c'était tout à l'heure dans la Vienne.
Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça montre que, d'une part, il y a une vraie clarification de la vie politique française. Je le disais, il y a une droite réactionnaire, nationaliste, anti-européenne, qui s'est structuré et qui aujourd'hui est une force politique importante et au deuxième tour de cette élection présidentielle. C'est un élément de clarification. Et face à elle, il y a un bloc progressiste que je représente. C'est maintenant cela qui structure la vie politique française. Et c'est cela qui va continuer à la structurer. Pour le reste, ce à quoi on a assisté hier me semble être une combine d'appareils qui a vocation à régler les problèmes de crédibilité de Mme Le Pen, qui, on l'a bien vu ces derniers jours, n'a pas d'équipe autour d'elle, et les problèmes de financement de M. Dupont-Aignan. Ça n'est ni plus ni moins que cela.
Emmanuel Macron, pardon, ce matin au micro RTL de Vincent Derosier. À Bruxelles, lors de son arrivée tout à l'heure au Conseil européen, François Hollande a déclaré que le 7 mai serait un choix européen. Les Français, a-t-il dit, ont tout à gagner à rester dans l'Union. Le pape François a célébré ce matin une messe devant plusieurs milliers de fidèles dans un stade de la banlieue du Caire. L'unique extrémisme admis pour les croyants est celui de la charité, a dit le Saint-Père. Je vous rappelle l'info RTL d'Olivier Bois qu'on vous a révélé ce matin. Le père du terroriste des Champs-Élysées a été arrêté hier soir à Noisy-le-Grand. Sa lâcheur fille, manifestement alcoolisée, a menacé des policiers au commissariat. Je vais tous vous tuer, a-t-il dit. Il a été facilement maîtrisé, il n'était pas armé. Apparemment, il en veut au maire de Noisy-le-Grand qui a refusé l'inhumation de son fils dans le cimetière de la ville. Un petit mot de football, Bernard, en Ligue 1 cet après-midi à 17h. Monaco, toujours leader, mais avec un match en retard, reçoit Toulouse. Le rugby, 25e journée de top 14. On n'est plus qu'à deux journées de la fin de la saison régulière. À 14h45, Castres reçoit Toulouse. Autre rencontre à 18h30 et à 20h45. Et puis en boxe, tiens, un choc de titans ce soir au stade de Wembley à Londres. 90 000 spectateurs se sont arrachés les billets pour assister à la finale du championnat du monde des poids lourds. Le redoutable ukrainien Vladimir Klitschko face au jeune britannique de 27 ans, Anthony Joshua, combat retransmis dans 140 pays dans le monde. Ça va cogner.
Ça devrait cogner, effectivement. Claire Kem, je vous en prie, concluez ce flash par la météo de ce samedi. On vous écoute.
Alors le temps sera ensoleillé partout en France cet après-midi. Seul le Pays Basque aura un ciel plus nuageux en fin de journée. À noter également des vents jusqu'à 70 km/h du Roussillon à la Provence. Les températures iront de 13 à 22 degrés entre le plateau de Langres et Biarritz. Il fera 18 degrés à Paris, Rennes et Lyon.
Il est au Pays Basque, votre chérie, Vicente, là.
Mon amour, où est-ce qu'il est aujourd'hui?
Où est-ce qu'il est?
Non, il n'y est pas. Il fait un truc super.
Il fait autre chose, mais c'est secret.
Il fait un sport extrême.
Ah oui? Oh là là.
Avec comme d'habitude, vous savez. Il a du mal à rester en place.
D'accord. Je note d'ailleurs que vous qui habitez au bord de l'eau, vous n'aimez pas la plage.
Non, j'aime pas trop le sol.
En fait, vous faites des trucs dans l'eau.
Ah, j'adore être dans l'eau.
Vous faites du paddle, je sais pas quoi.
Plus beaucoup, mais oui, je m'y suis mis aussi. Du paddle. Un la peu planche, de voile. J'aime bien être au milieu de la mer, j'adore me baigner en pleine mer. En fait.
Mais buller sur le sable, non.
Ah, pas trop, non, j'aime pas trop.
Bah voilà, comme quoi on se fait des idées à propos
de
la
plage. Ah non, la plage, je m'ennuie.
Elle doit aller à la plage, pour bronzer. Non, elle aime pas.
Non, pas trop, non.
Écoutez, en tout cas, vous écoutez le journal inattendu.
Sauf avec Surf Rider Foundation pour faire le nettoyage des plages.
Bien entendu.
Pendant les initiatives océanes.
Et on a fait le reportage, c'était il y a deux ou trois semaines,
oui,
me semble-t-il.
Et
on a fait le reportage, bien évidemment. On reprend ce journal inattendu de la comédienne Claire Kem. Je vous rappelle que je l'ai invitée au journal inattendu parce qu'elle joue avec Guillaume de Tonquédec dans La Garçonnière depuis la fin du mois de février et jusqu'à la fin du mois de mai. C'est une excellente...
Mois de juin même, jusqu'au 30 juin.
Ça a été prolongé alors.
Et oui.
C'était 31 mai.
Et
ça
a été poussé. L'année prochaine.
Oh là là, donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc c'est au Théâtre de Paris et
on
c'est une
sortir.
Très bonne pièce américaine. En fait, c'est tiré d'un film de Billy Wilder. Alors, nous allons parler maintenant environnement, écologie et initiatives citoyennes et personnelles. Pourquoi ? Parce que vous avez souhaité que votre invité soit le metteur en scène Cyril Dion. Alors, il n'est pas en studio avec nous, rue Bayard, il est au studio RTL du bureau de Nantes. Cyril Dion, est-ce que vous nous entendez bien ?
Absolument.
Là, vous êtes 5 sur 5. Vous connaissez, hein,
oui,
Claire et Cyril.
Oui.
D'accord. Alors, pour que les auditeurs vous resituent un petit peu Cyril Dion, on va écouter, là, tout de suite, un extrait de la bande-annonce de ce formidable film « Demain », c'était en 2015.
Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire?
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal.
La jeune femme qu'on entendait, bien sûr, c'était
Mélanie Laurent.
Oui. Cyril Dion, avec deux... Alors, je crois, vous confirmez que ça a très, très bien marché en salle, hein, demain. Plus d'un million, c'est ça?
Un million cent en France, distribué dans 30 pays. Et là, je reviens à peine des États-Unis où le film vient de sortir, là, le 21 avril.
Ah, il vient juste de sortir chez les Américains?
Oui, mais en fait, ils ont attendu Trump pour avoir envie de...
Et oui, en fait, ils ont attendu un président anti-écologiste.
Ils ont eu un sursaut.
Ah, ça, c'est vraiment étonnant.
Dans le New York Times, c'était ça. Hein, c'était si, en gros, vous trouvez que la politique de Trump pour le climat est catastrophique, allez voir ce film.
Oh, je pense que vous allez faire aussi encore beaucoup d'entrées aux États-Unis, parce que vous savez que depuis l'élection de Trump, Cyril Dion, la presse américaine marche du feu de Dieu, les gens se ruent sur les journaux,
plus de 300 000 abonnés,
ils ont tous augmenté leur tirage, enfin, c'est formidable.
On se méfie des alternative facts.
Ah oui, exactement, absolument, les faits alternatifs de M. Trump. Cyril Dion, est-ce que vous avez constaté depuis deux ans, bon je rappelle que demain, c'était le récit en images de toute une série d'initiatives individuelles en France comme à l'étranger, des initiatives qui font que peut-être on va réussir à freiner la catastrophe vers laquelle nous nous précipitons à toute vitesse. Est-ce que depuis deux ans, il vous semble, puisque vous sillonnez la planète pour justement ce film, que ça va un peu mieux ou que rien ne s'améliore vraiment ?
En fait, les choses se polarisent, c'est un peu ce qui est en train de se produire en France. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que la situation est assez grave, même très très grave. Et la réponse que les personnes apportent à cette situation-là est diverse. Donc il y a une réponse qui va plutôt vers des mouvements populistes, et on espère que c'est pas ce qui va se produire en France
dimanche prochain.
Et il y a une autre partie de la population qui, elle, effectivement, se remonte les manches et met en œuvre de plus en plus d'initiatives. Et depuis demain, c'est assez fou, toutes les histoires qu'on nous a racontées de personnes qui ont mis en œuvre à la fois des fermes en permaculture, à la fois des monnaies locales, à la fois de l'économie locale, de l'économie circulaire, des principes de solidarité, d'autres mécanismes de démocratie qui sont expérimentés, notamment à l'échelle de communes. Donc oui, il y a un vrai mouvement et qui est beaucoup plus important qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, alors, on pourrait dire que ça représente 25% de la population au moins.
Voilà, ça c'est un chiffre très précis, parce que moi, néanmoins, j'entends bien ce que vous dites, mais j'ai l'impression que ça reste très groupusculaire, voire anecdotique. Mais je me trompe, sans doute.
Mais si vous regardez, en fait, ce qui s'est passé au premier tour des élections, c'était intéressant, puisque on a, chez deux candidats au moins, eu un programme qui n'a jamais été aussi écologique et qui n'a jamais aussi... adopter un certain nombre de choses qu'on dit depuis des années.
Mélenchon.
Et si on additionne donc les scores de Mélenchon et de Hamon, on est à peu près à 26%. Alors évidemment, ces deux andouilles n'ont pas réussi à s'entendre, ce que moi j'appelais plutôt un peu de mes voeux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais on voit que il y a un électorat, en tout cas, qui est en attente de ça, de cette transformation à la fois démocratique, écologique, sociale, économique, et qui représente à peu près ça. Et qui, si elle était capable justement de s'allier, de se regrouper, pourrait être une force motrice de transformation de la société.
Claire Kem, très pratiquement, par exemple, que vous soyez ici à Paris ou chez vous au Pays Basque, qu'est-ce que vous faites, vous, citoyenne Claire Kem, à part ne pas jeter votre mégot dans la rue, comme j'ai fait tout à l'heure et vous m'avez engueulé.
Mais on peut parler des petits gestes comme ça, mais vraiment, ce qui est pour moi très important aujourd'hui, là, c'est de dire qu'on ne demande pas aux gens... Enfin, je veux bien vous parler de mes gestes au quotidien, non, mais ça, c'est un truc à la rigueur, ça concerne chacun.
Mais c'est des gestes
chacun.
Qu'on fait peut-être tous, ou plus ou moins.
Ce qui est très important, surtout, là, aujourd'hui, c'est de se compter, se recenser. Nous, les gens qui pensons que ce monde marche sur la tête et qu'on peut, évidemment... ouvrir les bras plutôt que de construire des murs. Eh bien, construisons des ponts. De toute façon, toute cette misère qu'on essaye de rejeter, la misère, c'est comme l'eau. Elle se fraye toujours un chemin.
Elle revient toujours.
Elle revient toujours. Donc, de toute façon, même si on ne veut pas la voir et qu'on occulte notre humanité, ça va nous revenir de plein fouet et avec une violence inouïe. Donc, moi, je peux vous parler de mes gestes, mais c'est très anecdotique par rapport à tout ce dont on parle. Et ce que j'aime énormément dans le film de Cyril et Mélanie, c'est à quel point ça donne envie de ce monde de demain. C'est méga sexy de changer le monde. C'est méga sexy, la solidarité, la démocratie, l'écologie, l'éducation. C'est beau quand on voit ce film et qu'on voit à quel point ces gens sont heureux, à quel point ils font du bien autour d'eux, à quel point c'est un cercle vertueux. Moi, je trouve que c'est magnifique. Il faut absolument que les politiques s'inspirent de tout ce tissu merveilleux qu'on a en France d'associations. Là, c'est quand même des associations hyper diverses. C'est aussi bien Emmaüs que Greenpeace, que WWF, que la CIMAD, que ATD Quart Monde, que tout. De toute façon, toutes les associations que vous pouvez connaître de mémoire, elles y sont. Ils se sont tous réunis.
Mais donc, du coup, Cyril Dion, par exemple, pour revenir au président Trump, qui fête aujourd'hui depuis ses 100 jours à la Maison-Blanche. Pour les causes que vous défendez, vous et Claire Kem, c'est terrible, j'imagine. Enfin, vous devez le vivre très durement.
À la fois, c'est terrible parce qu'effectivement, c'est...
Émotivant, peut-être.
Oui, c'est, en tout cas, on sait qu'aux États-Unis, ça a réveillé un certain nombre de gens. Ouais. Notamment, là, il y a eu la marche pour la science qui a eu lieu à Washington le week-end dernier.
Ouais. En France était, aussi, mais
et,
pas...
Et en France aussi, ouais, et qui est fondamentale parce qu'il y a un vrai danger, là, aujourd'hui, sur une espèce de négationnisme, c'est-à-dire de faire disparaître des données scientifiques sur le changement climatique.
Ouais, c'est incroyable.
Et en même temps, on voit que... Oui, il faut que ça force la mobilisation. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Claire là. Nous, avec Colibri, on s'est associés, puisque je suis aussi cofondateur avec Pierre Rabhi d'un mouvement qui s'appelle Colibri. Oui. On s'est associés à l'appel des solidarités pour faire justement ce que ne font pas suffisamment pour nous les responsables politiques, c'est-à-dire faire montre d'unité. Dire aujourd'hui, la situation est tellement grave qu'on a besoin d'être tous ensemble pour la résoudre. Et donc là, je suis à Nantes aujourd'hui parce qu'on a lancé une campagne qui s'appelle Le Chant des Colibris, avec une quarantaine d'artistes, où on fait des grandes journées pour sensibiliser les gens à tout un tas de solutions qu'on montre dans Demain. Et le soir, on fait un grand concert pour avoir un moment de communion. Donc là, ce soir, il va y avoir Mathieu Chédid, Alain Souchon, Dominica, Isia Islin, Albin de la Simone et tout ça. Et ils sont tous... Ce qui est très drôle, c'est de voir que dans les campagnes précédentes, il y avait plein d'artistes qui allaient avec un certain nombre de candidats. Et aujourd'hui, ils ont plutôt envie de venir avec les mouvements citoyens parce qu'ils ont compris que le changement a besoin de venir de là.
Dans cette campagne politique, c'est vrai que les vedettes, entre guillemets, on ne les a pas vues. Ils sont pas exprimés pour dire « moi je suis avec machin, moi je suis avec truc ».
Ils s'expriment avec mais ils s'expriment autrement. Ou avec l'appel des solidarités parce que, justement, on a besoin de faire un changement culturel aujourd'hui. On a besoin que ça soit la société, par sa base, qui commence à se recomposer, qui prenne les choses en main et qui oblige les responsables politiques à adopter un certain nombre de directions.
Donc comptons-nous aller sur 32-32-1 ou faites un SMS pour répondre présent, allez sur le site de l'appel des solidarités. Juste pour vous compter, ça vous prend une seconde, vous dites « je suis d'accord pour dire que ce monde est injuste ». Et qu'il faut plus de solidarité.
Merci beaucoup, en tout cas, Cyril Dion. Et bon séjour à Nantes, bon concert.
Je t'embrasse bien fort,
et puis, si Pierre Rabhi est dans le coin, vous le saluez de ma part, parce que c'est quelqu'un d'absolument formidable. Je l'ai interviewé il y a quelques semaines. Il était chez lui en Ardèche. Enfin, c'était très compliqué pour avoir la liaison, parce qu'il est relié par les corbeaux. Mais le fait est qu'on avait réussi quand même à avoir Pierre Rabhi. Et on était très contents.
Et si vous avez des auditeurs à Nantes, ils peuvent venir. C'est de 11h à 23h. C'est au
on en a.
Et à Stéréolux. Super. Donc, venez nous rejoindre, venez vous contenir, venez découvrir des initiatives. Vous faire du bien.
Eh bien, super.
Voilà. Il y a d'autres dates après à Strasbourg, à Marseille, à Lyon. Donc, vous pouvez nous rejoindre.
En tout cas, aujourd'hui, à Nantes, sans faute. Merci beaucoup, Cyril Dion.
Merci.
Merci. 13h14, la suite du journal inattendu de Claire Kem dans un instant. Bon, après les motivations militantes, on va repartir un petit peu dans le showbiz, si vous voulez bien.
Je vous suis.
D'accord ? Allons-y.
Le journal inattendu de Claire Kem avec Bernard Poiret sur RTL.
J'ai beau chercher d'autres à rêver. Je ne veux qu'il. Je ne veux qu'il.
Même si nos raisons se séparent. Comme un art, même si parfois on fait semblant d'y croire.
Je ne veux qu'elle avec Marc Lavoine, ça date de 2001. Vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, par vous-même. Donc ça a été un moment, je pense, assez important pour vous, chanson avec Marc Lavoine. Ensuite, ça a découlé sur plein de choses. Et puis vous avez fait un disque en 2011. Et la question que je me pose, c'est pourquoi un seul ?
Le prochain, il arrive, il est prêt.
Ah, ça y est ?
Oui, on s'est réunis avec des amis au Pays Basque, mais... Je vous avoue que c'est vrai que j'ai la comédie aussi. Et puis
non, mais vous avez 25 fers au feu, donc
qui, okay. Qui m'intéresse. Mais oui, non, bien sûr, je vais finir. Et là, il est fini, il faut que je l'habille. Il faut que je l'habille maintenant. Je vais lui trouver des jolis vêtements. C'est-à-dire, je vais trouver des beaux arrangements. Je veux quelque chose à la fois très sobre et à la fois, j'aimerais quand même. Donc, ça prend du temps, parce que là, je suis au théâtre et que j'ai vraiment la tête dans le sac. Je ne peux pas penser à tout en même temps.
Jusqu'à fin juin, au moins, et après la tournée.
Après, je pense que ça va se finaliser cet été et on va enregistrer ça avant septembre.
Mais est-ce que ça va avoir la même sonorité, disons, que ça ?
Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments.
Non,
c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. Non, c'est marrant.
Alors ça sort de votre seul album de 2011 qui s'appelait « Où il pleuvra, ça dépend ». Ça n'aura rien à voir. Si, quand même.
Cette chanson, c'est Charles Souchon qui m'a justement qui m'a écrit cette chanson. Et alors, je l'adore, je suis super contente. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait représentatif ni de l'album de 2011, ni de celui que je vais faire là. Là, on est plus dans des pianos-voix, dans des chansons. Oui, moi, vous savez, je suis tout le temps au piano quand je chante.
Ouais.
Donc ça va être un peu plus sensible, on va dire. Un peu moins pop.
Et est-ce que la chanson, Claire Kem, c'est aussi un support pour faire passer vos idées militantes? Ou est-ce que c'est autre chose?
Moi, je suis pas
militante. Non, je comprends bien, mais vous êtes concernée par des tas de choses. Et donc, peut-être qu'à travers les textes que vous choisissez, ou que vous écrivez, ou que vous acceptez, il passe tout ça.
Oui, moi, j'écris beaucoup sur ça.
Ça va apparaître dans le prochain album, non?
Alors, sur le prochain, peut-être pas.
D'accord.
Non, exceptionnellement. Sur le précédent, j'avais écrit une chanson qui s'appelait La Mer, qui parlait de l'état de la mer.
Des
horreurs qu'on peut lui faire. Et là, cette fois-ci, il y a toujours eu, au détour d'une phrase, il y a une chanson.
Mais c'est vous
que
qui écrivez écrite.
Oui, en grande partie. Et puis là, je me suis associée à un monsieur que j'admire énormément, qui s'appelle Pierre Grillet.
Je connais pas.
Qui a écrit notamment Madame Rêve pour Alain Bachung. Qui est un être délicat et que j'aime beaucoup.
Mais vous ne pratiquez que des êtres délicats.
Ah, mais moi, de toute façon.
À part Bichente, bien évidemment, qui est une brute épaisse.
Très délicat, je vous interdis de dire ça. Mais non, c'est super. Et puis, c'est des gens que j'aime beaucoup. On s'est posé au Pays Basque et on a fait des chansons au gré de nos envies, au gré de ces bons moments passés ensemble avec un guitariste qui s'appelle Guillaume Soulan, que je salue, que j'aime beaucoup.
C'est ça, la mer. Je réécoute le disque en entier parce que je connais quelques chansons, mais pas la totalité.
Et alors, il est un peu brouillon, je l'avoue. Maintenant, je fais mon mea culpa.
Avec le postérieur.
J'ai voulu mettre tout le monde d'accord. Moi, arrondir les angles, faire plaisir à mes amis, faire plaisir à ceux qui travaillent avec moi. Si je ne regrette pas cet album, je l'adore. Ça a plutôt bien marché, donc tout va très bien. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai pris confiance. Et pour le second, je vais vraiment faire ce que je veux.
Et puis parmi aussi vos expressions musicales, il y en a une qui est importante, parce que là quand même vous y êtes depuis maintenant 2005, et on n'est pas là-dedans quand même par hasard, hein, c'est la troupe des enfoirés. Y en a que les
pégosses au fond. Jennifer, je vous dis parce que vous avez...
Qui chante?
Amel Bent. La voix, c'est Amel.
C'est vous.
Ben ouais.
J'arrivais pas à faire la différence. Attendez, il y en a d'autres. C'est vous, ça.
Ça, c'est Jen. On reconnaît bien sa voix.
D'accord.
Amel Bent. Moi.
Ah, trop. Parce que... C'est super, ça, cette reprise
ça
de cas, c'est formidable,
super.
Absolument magnifique. Mais on l'écoutait avec le technicien réalisateur et on disait, mais elle est où? Parce qu'on est, on n'a pas toutes les...
Ah, mais enfin, dites-vous que je n'ai pas de signature vocale,
mais pas du tout, on n'a pas dit ça. On dit qu'on est des bœufs, nous, donc vous savez, c'est ça le problème.
Mais non, mais c'est ça qui est bien avec la troupe des enfoirés, c'est qu'on est tous mélangés, en plus, on s'en fiche de savoir qui chante quoi ou quoi, on va là où il y a écrit notre nom. Ah, maintenant, c'est moi.
Ah d'accord, ok.
Ah bah oui,
Et parmi tous vos projets, parce que vous en avez une valoche, visiblement, Claire Kem, donc le disque, vous êtes au théâtre, vous allez partir en tournée, etc. Il y a un peu de télé qui traîne ou de cinoche?
J'ai fait des trucs super, je suis contente. J'ai fait un téléfilm avec un sujet très douloureux, l'alcoolisme. Mmh. Une jeune maman alcoolique qui met des alarmes sur son portable pour pas oublier de donner à manger à son bébé. C'est un thème très fort, j'ai eu très envie de faire ce film. C'est moi la maman, c'est Grégory Montel le papa.
Ouais.
Et c'est un petit garçon qui est extraordinaire dans le film d'ailleurs. J'ai fait ça, parallèlement à ça, là je tourne une série à Lyon qui s'appelle Insoupçonnable, qui est issue d'une série de la BBC qui s'appelle The Fall.
C'est du polar ?
C'est du polar sévère avec Emmanuel Seigné, Melville Poupeau, Jean-Hugues Anglade, Patrick Chenet. Super casting. Ça sera pour TF1 à la rentrée. Et je crois ce soir qu'ils rediffusent un truc sur France 3, L'Inconnu de Brocéliande, je crois, qui était...
Vous êtes partout ?
Mais non, il y a des périodes où je suis plus du tout là, puis il y a des périodes où bouffe, tout à coup il y a une petite bouffée, il se passe trop. C'est un peu toujours tout en même temps.
Ah, écoutez, c'est super, en tout cas.
Merci.
Écoutez, on ne peut pas imaginer que vous arrivez à rentrer tout ça dans une journée de 24 heures. Mais enfin, si vous le dites, on vous croit sur parole.
J'essaie.
Il n'y a aucun problème.
J'essaie.
13h22, suite et fin du journal inattendu de Claire Kem, si vous le voulez bien, avec l'invité surprise que nous avons choisi pour vous, Claire Kem. Il se cache juste après la pause.
Le journal inattendu sur RTL, avec Claire Kem et Bernard Poirette.
Il nous reste 5 minutes dans ce journal inattendu. Ces 5 minutes sont consacrées à accueillir au téléphone l'invité surprise pour Mademoiselle Claire Kem. Invité surprise, bonjour.
Bonjour.
Bien.
Alors, je sais qui c'est.
Ah non, attendez. Mais non, qui ?
Jean-Jacques Debout.
Mais comment elle a fait juste
mon Jean-Jacques.
Comment ça va, ma chérie ?
Je suis tellement contente que tu sois là. J'ai parlé de toi tout à l'heure.
Jean-Jacques Debout.
Mon frère, ce soir, je pense à toi.
Jean-Jacques !
C'est quoi ? C'est
un extrait de la comédie musicale que Jean-Jacques Debout a écrit sur l'histoire de Bernardin de Saint-Pierre sur Paul et Virginie.
D'accord.
Comédie musicale dans laquelle j'ai débuté au Théâtre de Paris.
À 16 ans.
Au Théâtre de Paris, là
au
où je joue
Paris,
en ce moment.
Le même théâtre que où
et
vous allez
sur ma loge, Jean-Jacques, sur ma loge, il y a l'affiche de la comédie. C'est incroyable.
Écoutez, Jean-Jacques Debout, je dois vous dire que juste avant l'émission, il se trouve qu'on regardait une vieille bande vidéo de Lina, dans laquelle il y avait une interview de vous et il y avait Claire Kem, enfant, qui était en face
enfant,
de vous. Enfin,
bébé
presque,
chat.
Enfin, en tout cas, bébé chat. Et donc, vous parliez à Claire Kem. Comment ça a connecté, vous deux, là ? Vous êtes tombés dessus
J'étais un jour chez un coiffeur boulevard Saint-Germain. Et puis je regardais des revues en attendant que ce soit mon tour, parce que comme je portais déjà la barbe à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, je pensais qu'il fallait que je trouve une Virginie pour monter Paul et Virginie, comme j'avais envie de l'avoir.
Ouais.
Et puis, je crois que c'était le journal Modes et Travaux, quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, je vois une ravissante jeune fille.
Dans le journal.
Une ravissante enfant, si vous préférez. Et qui était avec un pull à vert et il y avait marqué « Vous pouvez tricoter, faire vous-même ce pull à vert » et elle était en fait le modèle qui posait avec ce pull à vert. Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais c'est elle, Virginie, c'est elle, j'en veux pas une autre, j'en trouverai jamais une aussi bien pour
c'est
le
génial,
rôle. »
cette histoire.
Et j'ai appelé le journal qui m'a donné son numéro de téléphone. Et c'est comme ça que j'ai pu la joindre et que je lui ai donné rendez-vous au Théâtre de Paris où elle est arrivée avec un grand sac d'où dépassait un tuba avec des palmes. Et elle me dit, je suis très pressée parce que, je suis content de vous voir, mais il faut que je descende à Marseille parce que je fais de la plongée sous-marine, je fais un concours. Et bien, je lui dis, mais vous savez qu'on a besoin de vous, il va falloir que vous veniez sur la scène pour l'audition. Et
elle est pliée en deux, hein. Elle est pliée en deux, Jean-Jacques Debout. Hein.
Oui.
Je sais pas, vous la faites beaucoup rire,
visiblement.
Je t'adore,
mais
c'est vrai, cette histoire, c'est extraordinaire. C'est partiellement
qu'est-ce
vrai.
Qu'est-ce que vous préférez ?
Écoutez,
la vérité ou une jolie histoire ?
Donc je peux vous raconter que la vérité.
Alors, parfait, on vous croit sur commande,
Jean-Jacques
Debout.
Jean-Jacques, je t'adore, mais si je puis me permettre, tu sautes quand même le fait que ma cousine dansait à l'époque pour Chantal Goya.
Oui.
Ma cousine a fait son anniversaire. Auquel j'ai été invitée, auquel était invité Gérard Plassiot, qui était ton régisseur, et que quand il m'a vue, il a dit « Mais dites-moi, mademoiselle, est-ce que vous savez chanter ?» J'ai dit « Oui, j'ai senti un truc. Hein. » Je me suis dit « Oh là là, ça sent bon. »
C'est
ça.
Ma chance.
C'est ma chance. Vous savez danser, vous savez jouer à la comédie, venez tel jour à telle heure au Théâtre de Paris. En effet, tu avais vu, toi aussi, parallèlement, cette photo de moi dans un magazine.
Oui, c'est incroyable, mais ça, ce sont les rencontres, tu sais, les rencontres
voilà.
De la
c'est
vie,
venu
quoi,
de... De deux côtés.
Qui sont au-dessus de nous, dans le ciel.
Et vous voyez encore de temps en temps
on
ou voilà où bah, vos,
je la
vos
vois,
vies.
Je la vois à la télévision.
Ah oui.
Comment on s'est croisés, mais non, c'est vrai qu'on s'est pas vraiment revus.
On s'est pas vus depuis longtemps, mais je suis toujours au courant de ce qu'elle joue et de ce qu'elle fait. Je vais du reste aller la voir au Théâtre de Paris.
Ah ouais, viens. Hein.
Que je connais. Et puis je vais aller la voir avec plaisir. Parce que je voudrais vous dire sur Claire que.
Dites.
C'est une personne magique. Qui a toujours été en harmonie avec elle-même, et ce qui est assez rare pour une comédienne. Elle est très douée parce qu'elle peut chanter, elle joue la comédie, elle a de l'humour, et puis elle a dans son sourire cette jolie petite flamme qui s'allume et qui vous donne envie de l'embrasser, de lui dire « Claire, surtout, continue, on a toujours envie de te voir ».
Et puis elle est extrêmement sympa.
Qu'est-ce que
ça, c'est pas rien.
Je vous remercie.
Merci infiniment, en tout cas, Jean-Jacques Debout, de nous avoir consacré 3-4 minutes.
Mais je suis très content.
Parce que c'est quand même drôle, parce que je vous dis, avant l'émission, elle a dit oh, Jean-Jacques Debout, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je l'adore, etc. Ouais. Alors, moi, évidemment, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit qu'on allait vous mettre au téléphone, forcément. Et elle vous a reconnu rien que sur le bonjour.
Mais il a une voix,
c'est quand même un signe.
Il a une voix particulière, Jean-Jacques.
Bon week-end à vous, Jean-Jacques Debout. Merci infiniment.
Mille baisers à toute la famille.
Et à vous aussi, je t'embrasse.
Moi aussi, mon Jean-Jacques.
Ma grande Claire, pas ma petite Claire, ma grande Claire.
Merci infiniment, Jean-Jacques Debout. Écoutez, Claire Kem, merci beaucoup. C'était une super rencontre.
Ah,
vous voyez, le temps a filé vite.
Ah oui, j'ai l'impression que ça dure.
Parce qu'elle est arrivée,
minutes.
Elle n'avait pas un poil de sec. Elle m'a dit oh là là, j'y arriverai pas, une heure, mon Dieu, je vais dire des conneries, etc. Vous n'avez rien dit de mal.
J'espère. Et voilà, signez l'appel des solidarités, c'est très important. Plus de solidarité, c'est la seule chose qui nous fera sortir de ce marasme-là.
Écoutez, si vous l'avez écoutée et qu'elle vous a plu, allez la voir au Théâtre de Paris cet après-midi à 17h, ce soir à 20h30. Et puis après ça, il y a toutes les autres soirées. Ça se joue jusque fin juin. Juin, au Théâtre de Paris, La Garçonnière. Merci infiniment,
merci
Claire Kem, d'être venue au Journal Inattendu.
Merci.
Dans un instant, puisqu'il est 13h29, il y aura On refait la télé avec Jade et Éric Dussard. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon après-midi. Moi, je serai là demain à l'antenne pour la matinale dès 7h. Bonne journée.